Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Michel Boujna pratique avec tant de virtuosité l'art de rêver que toujours ce dont il rêve arrive. Il rêvait de jouer Molière, c'est chose faite. Avec l'une de ses comédies les plus fameuses, L'Avare, mise en scène brillamment au Théâtre des Variétés à Paris par Daniel Benoît, grand homme de théâtre. Alors on sait la pièce psychologiquement fascinante, mais on découvre surtout une autre dimension de Michel Boujna. On a donc mille choses à se dire sur cette rentrée théâtrale très attendue, mais aussi, et bien aussi sur la vie qui nous pousse.
Europe 1.
Bonjour cher Michel.
Bonjour.
Michel Boujna, vous jouez donc au Théâtre des Variétés, l'une des pièces fameuses de Molière, L'Avare, en incarnant bien sûr Harpagon, pour qui l'argent est la seule valeur éternelle. Alors vous voilà donc héros du théâtre classique. Ce théâtre qui a quand même, souvent au début de votre histoire, refusé de vous ouvrir ses portes. Ce rôle, vous ne l'abordez pas, j'imagine que vous en emparez.
Ah ben, c'est, y a pas d'autre solution. C'est tellement monumental. Ça fait tellement peur. D'ailleurs, quand Daniel Benoît me l'a proposé, j'ai tout d'abord dit non. Et après une nuit de réflexion, j'ai dit « mais pourquoi pas ?» J'ai dit oui, le lendemain. Après, j'ai relu la pièce que je n'avais pas relue la nuit. Et là, j'ai dit mais qu'est-ce que je suis bête d'avoir accepté. Mais je suis fou, moi, d'avoir accepté. Mais il faut m'enfermer. C'est parce que c'est monumental.
Parce que c'est monumental et parce que, bah, bien sûr, Molière lui-même a joué l'avare en créant le rôle d'Harpagon au Théâtre du Palais Royal en septembre 1668. Mais beaucoup plus près de nous, Jean Vilar a joué Harpagon, Louis de Funès, Michel Serrault, Michel Bouquet, Denis Podalydès ont joué Harpagon. Alors comment Michel Boujna va-t-il s'emparer de ce personnage ?
Ben, sur une chose qui m'a, moi, bouleversé quand j'ai relu la pièce et quand on a commencé à travailler dessus avec Daniel Benoît, c'est une phrase de La Flèche, qui est le valet de Cléante, le fils d'Harpagon. Il dit « De tous les humains, c'est le moins humain. » Mais ça ne veut pas dire qu'il est inhumain. La vision que moi j'avais d'Harpagon jusque-là, c'était qu'il était quasi inhumain, que c'était un monstre, tout simplement un monstre. Avec cette phrase, je me suis dit « Au fond, oui, c'est un monstre, mais surtout, il est désespéré. »
Oui, et puis les monstres ne sont pas amoureux. Et lui,
absolument. Donc il n'est pas si inhumain que ça. C'est à la fin de la pièce qui perd son humanité, pour moi.
Ouais.
Donc j'essaye de provoquer chez moi et chez le spectateur une phrase qui m'est arrivée, c'est « Ah mince, ça m'énerve, mais à la fin, je l'aime bien.
» Alors, Michel Boujna, vous dites chaque fois que Molière voulait jouer une tragédie, il écrivait une comédie. Vous pensez que L'Avare est né du même processus ? Il s'agit en fait des obsessions tragiques de la vieillesse qui se sait fragile et n'a d'autre recours que le pouvoir de l'argent, l'argent qui est une sorte de bouclier ?
Exactement, exactement. Et en plus, alors c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'il y a deux choses. D'abord, à l'époque, il y a une chose dont qu'on oublie beaucoup, c'est que la tragédie se jouait en vers. Et le public allait voir les tragédiens pour voir celui qui était capable d'enchaîner un nombre de vers incalculable sans respirer.
Or, L'Avare est en prose.
L'Avare est en prose. Et pourquoi Molière ne peut pas jouer de tragédie ? C'est parce qu'il est phtisique.
Ah.
Donc, il ne peut pas enchaîner les vers de tragédie. À cause de ça, ou grâce à ça, il invente une nouvelle manière de jouer la comédie à l'époque. Et il se sert des influences italiennes et tout ça. Et à ce moment-là, il commence à jouer la comédie comme il le fait lui.
Extraordinaire.
Ça, c'est une chose. La deuxième chose qui est incroyable, c'est qu'il a 41 ans quand il écrit ça. Il est déjà vraiment malade. Mmh. Il est amoureux de la fille de sa femme, Armande. Elle est jeune, elle est belle, il a une histoire d'amour avec elle, mais elle est légère de la cuisse, on va dire, donc elle a d'autres amants. Il en souffre terriblement. Qu'est-ce qu'il écrit dans L'Avare ? Il écrit un vieux.
Amoureux d'une trop jeune fille.
Malade. Amoureux d'une femme plus jeune que lui, et qui c'est son rival, son fils.
Oui, donc il transpose.
Exactement, ça veut dire qu'il parle de lui. Et il se sert de l'histoire de l'argent comme un masque de la Commedia dell'arte pour glisser à l'intérieur de cette fable ses propres angoisses, ses propres blessures. Et en même temps, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, mais au fond, quand on n'a plus rien, ni l'amour de ses enfants, ni l'amour d'une femme, qu'est-ce qui reste sinon l'argent? Alors, et ce qui est extraordinaire, mais vraiment extraordinaire, c'est que c'est drôle.
Michel Bouchard, vous dites que c'est drôle, mais oui. L'Avare a été écrit en 1668, donc la langue, la prose de cette comédie a un petit peu plus de 350 ans. Molière parle un français ancien avec des tournures anciennes. Alors bien sûr, le sujet, il est contemporain, mais la forme, elle, est ancienne et pourtant, elle touche la cible.
Mais oui, mais parce que si vous servez Molière, et si vous ne vous servez pas de Molière, mais si vous le servez, comme dit Michel Bouquet, alors là, il vous le rend au centuple. Parce que tout est limpide. C'est d'une simplicité incroyable. Cependant, préparez-vous à bien recevoir ma maîtresse qui vous doit venir visiter et vous mener avec elle à la foire.
Bon. Mais tout le monde comprend.
Mais bien sûr, tout le monde comprend. Bien sûr.
Mais alors...
Ne vous offensez pas, ma belle, si je viens à vous avec des lunettes. Je sais que vos appâts frappent assez les yeux, qu'ils sont assez visibles d'eux-mêmes et qu'il n'est pas besoin de lunettes pour les apercevoir.
Alors je ne m'offenserai point.
C'est bon.
Michel Boujna, vous qui sur scène avez le génie de l'improvisation, bon, avec Molière, vous vous devez de respecter jusqu'à l'ombre des virgules. Le texte et rien d'autre que le texte.
Oui.
C'est un pacte à signer avec le théâtre classique. Bah alors comment le virtuose du one-man show que vous êtes se plie à cette discipline qui est impitoyable et qui ne supporte pas le moindre écart?
Le travail, encore le travail. Toujours le travail, la nuit, le matin. Moi, je dors l'avare, je mange l'avare, je respire l'avare. Donc, il faut travailler énormément. Et aussi, si vous travaillez beaucoup, alors, vous n'avez pas besoin d'aller chercher ou de faire des effets et tout ça. Tout est dans Molière. C'est extraordinaire ce que cet homme a fait. Il a écrit cette pièce en une semaine. En une semaine. Moi, en une semaine, je cherche la feuille. D'accord.
Oui, mais il la trouve. Et il la noircit bien. Michel Boujna, avec qui on se balade cet après-midi. C'est formidable, on fait une pause très courte. À tout de suite.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1.
Michel Boujna est l'avare de Molière. Mise en scène par Daniel Benoît au Théâtre des Variétés à Paris avec une distribution brillante. Et cet après-midi, eh bien ensemble, on se balade. Alors cher Michel, votre père était médecin, votre oncle était médecin, votre frère Jean-Louis est médecin. Bon, pour ne pas trahir la famille, vous auriez dû prolonger cette dynastie de toubib. Vous avez bien essayé, mais la fac de médecine vous a plongé dans un état de sidération tel que vous avez compris au bout de combien de jours que ce n'était vraiment pas pour vous.
Ah, au bout de 2 heures.
2 heures.
Oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est que d'abord, ils sont tous médecins, donc je n'avais pas trop de place. La seule place que je pouvais prendre, éventuellement, c'était d'être malade.
Ouais.
Et ensuite, je faisais déjà du théâtre, mais je n'osais pas. Je n'osais pas me dire qu'on pouvait vivre de ce métier. Je ne pensais pas que je pouvais vivre de ce métier. Alors, pendant les vacances, il se trouve que j'ai été enrôlé, mais vraiment enrôlé de force, sur un tournage de René Alliot, un film qui s'appelle toujours, d'ailleurs, Les Camisards.
Vous aviez quel âge ?
J'ai 16 ans et demi. Et il y a là, parmi la distribution, tous les acteurs du théâtre institutionnel, tous, qui sont là. Alors, il y a les vieux comme Planchon ou Hubert Gignoux, mais il y a aussi les jeunes comme Maurice Benichoux, Gérard de Sarthe, Clévenot, Olivier Perrier, enfin, bon, et j'en passe. Et Rufus. Et le dernier jour, pour nous, parce qu'on rentrait à l'école, eux n'avaient pas fini, on dîne tous ensemble, on était là, avec Paul Alliot, le fils de René, qui était mon copain d'école. Enfin, c'est comme ça. Moi, j'étais en vacances chez un copain d'école. Je n'étais pas question que je fasse ça. Et Rufus me dit, mais si tu veux, tu peux. J'ai dit ça toute la nuit.
Elle est redoutable, cette petite phrase.
Toute la nuit, j'ai dit ça.
Elle ouvre toutes les portes.
Mon copain Paul Alliot, nous, on a dormi dans un petit hôtel à côté de la gare, puisqu'on partait le lendemain. Et toute la nuit, je disais, tu sais, Paul, si tu veux, tu peux. Et à 3h du matin, il m'a dit, tu vas fermer ta gueule, sinon je vais me lever, je vais te frapper. J'ai compris ta phrase, mais arrête. J'ai dit, oui, mais c'est très important.
Oui, mais alors, là, vous avez 16 ans et demi, l'histoire, elle a quand même démarré un peu plus tôt, parce que j'aimerais bien savoir comment s'appelait cet ami de votre père qui vous fascinait, enfant, par ses récits improbables où tout prenait des allures de conte. Elle exagérait absolument tout, et elle tenait tout le monde en haleine. Et je crois que c'est avec elle que vous avez compris que finalement, enjoliver la vérité et faire des mensonges consolants, ça pouvait être un art.
Ah bah, Tata Ginette.
Tata Ginette.
Ginette Taïeb, qui était une femme d'une beauté.
En plus.
Ah, elle était magnifique. Elle était magnifique. Son mari, elle, c'était un couple incroyable. Lui, il était champion de natation, dentiste. C'était un couple d'une beauté. Elle faisait partie de la bande de mes parents. On parle de gens qui, à l'époque, avaient 35 ans, ouais. 36 ans, et qui faisaient la fête. Et les fêtes s'arrêtaient, et elle se mettait à raconter des histoires. C'était fascinant. Moi, à ce moment-là, je ne sais pas du tout que ça va me marquer au point que plus tard, je me souviendrai de ça comme une des sources
voilà.
Mais elle, de mon plaisir de raconter.
Mais elle vous hypnotisait donc.
Ah oui.
Alors,
elle a 98 ans.
Oui.
Ok. 97 ans. Elle est partie au paradis, elle avait 97 ans. Il y a sa voisine qui arrive, elle lui fait « Tu sais, j'ai arrêté de fumer. » Et sa voisine fait « Pourquoi, maintenant ?» Elle lui dit « Parce que je viens d'apprendre que ça rendait stérile. » Elle a 97 ans. Elle lui fait « Comment tu vas aujourd'hui ?» Elle lui dit « J'ai mal partout, sauf au bon endroit. » Elle est incroyable.
Alors, elle savait, Tata Ginette, enjoliver la vérité. Elle savait rendre les mensonges consolants. Elle réinventait le monde. Picasso disait que, pour l'art, il n'y a de vérité que dans le mensonge. Donc, un artiste, de toute façon, ne se contente jamais de la réalité.
Mais oui, évidemment. Évidemment.
C'est ce qu'elle vous a appris. C'était une artiste.
Mais bien sûr, c'est par la fiction qu'on raconte la vérité. C'est par le mensonge qu'on raconte la vérité. C'est pas... Plus on se travestit, plus on peut dire des choses. Moi, je déteste cette espèce de mode de l'autobiographie. Je trouve ça magnifique d'inventer des histoires et grâce à cette invention-là, raconter sa vie. Mais on la cache, évidemment.
Alors, vous étiez donc un adolescent très volubile, avec une imagination débordante, mais vous étiez pourtant un ado triste, puisque la blessure de l'année 1963 ne s'est jamais refermée. Et de la Tunisie, Michel Boujna, bah, vous avez gardé dans votre jeunesse un accent très très prononcé. C'est à cause de cet accent que le jury de l'École supérieure d'art dramatique du Théâtre national de Strasbourg vous a recalé.
Ouais.
Juste à cause de l'accent.
Ils m'ont dit, c'est mieux que tu sois pas acteur, tu n'auras pas beaucoup de rôles, sois metteur en scène, mais là tu peux pas.
Et ils vous ont dit, tu ne peux pas être acteur.
Ouais. Mais au fond, ils m'ont rendu un immense service. Parce qu'ils m'ont indigné. Parce qu'ils m'ont révolté.
Ça donne du carburant, ça.
Mais oui. Et même si ça a été très dur, vraiment très dur, ça a été comme un deuxième exil pour moi. L'interdiction de rentrer dans le théâtre.
D'accéder au rêve.
Ouais.
Vous aviez choisi quelle scène pour le concours. Vous aviez le sentiment, enfin, vous étiez senti porté par une flamme, une vérité, une justesse de ton, vous pensiez avoir été bon.
C'était en deux temps.
Oui.
Il y avait d'abord un concours, on était beaucoup, et ils en gardaient 40. Là, j'avais gagné. Et après, ils nous prenaient pendant une semaine, et pendant une semaine, ils nous décortiquaient de la tête aux pieds. C'est là où je ne pouvais plus masquer qui j'étais. Et puis, au fond, je n'avais pas envie de masquer qui j'étais.
Bien sûr.
Mais c'est les 5, 6, 7 premières années de ma carrière dans ce métier, j'ai masqué qui j'étais. Ils se sont débrouillés, c'est là où ils m'ont fait du mal en même temps, parce qu'ils se sont débrouillés pour que je joue leur jeu, au fond. Au fond, inconsciemment, je me suis dit, ils ont raison. Alors, tout ce qui était mes racines, mes origines, toute ma source, tout ce qui a fait que j'ai pu écrire des histoires après, je l'ai renié. J'étais dans le déni le plus absolu. Mais j'étais très malheureux. J'étais
bien sûr,
un autre.
Mais bon, cet accent tunisien, plus tard, vous en avez fait un trésor, une signature.
Mon étendard.
Mais, votre étendard. Mais bon, à l'époque, justement, vous passez ce concours. Bon, vous jouez bien, mais l'accent recouvre tout. Aujourd'hui, Michel Boujna, dans les fictions, à la télé comme au cinéma, les accents ont disparu. Hein. Le seul qui existe, on va dire que c'est l'accent des cités. Mais il n'y a pas d'acteur.
Et l'accent marseillais. Et l'accent du Sud.
D'accord, mais bon, il n'y a pas d'acteur ou d'actrice qui revendique l'accent toulousain, l'accent lorrain. On va dire qu'il n'y a en fait que dans les comédies de Danny Boone qu'on retrouve l'accent ch'ti, et dans les comédies donc sur les pieds noirs qu'on retrouve l'accent d'Afrique du Nord. Mais j'en reviens à vous avec votre accent, Michel Boujna. Vous auriez aimé jouer Roméo à 20 ans ?
Oui, bien sûr. Et je pense que le fait d'avoir un accent, ça n'aurait pas été un obstacle. Mais vous savez, il y a une chose bizarre. C'est que quand vous travaillez sur la langue de quelqu'un qui n'a pas votre accent, d'accord ? Molière, par exemple, il disparaît l'accent. Mais je ne fais pas exprès. C'est lui, c'est Molière. Il ne m'interdit pas mon accent. D'ailleurs, dans la distribution, il y a un acteur qui s'appelle Paul Carreras, qui, lui, est du sud-ouest, et il a son accent, et il est magnifique. Il joue Maître Jacques, il est magnifique. Je pense qu'on pourrait jouer Harpagon avec l'accent du sud-ouest. Vous savez que, jusque dans les années 50, à peu près, il y avait énormément d'acteurs qui avaient des accents au théâtre à Paris. Ils venaient de toutes les régions de France, et alors de l'époque de Molière encore plus. Donc, cette normalisation, elle est pas normale. Elle n'est pas juste.
Elle n'a plus de saveur, elle n'a plus de parfum.
Elle a tué les identités.
Voilà.
Mais enfin, on peut être con avec un accent, on peut être intelligent avec un accent.
Et heureusement. On fait une pause très courte, on retrouve tout de suite Michel Boujna. Michel Boujna, vous aviez 28 ans quand vous avez triomphé pour la toute première fois sur la scène d'un théâtre parisien avec un personnage devenu une sorte d'ange gardien, Albert, qui trimbalait la nostalgie solaire de votre paradis perdu, la Tunisie de votre enfance. Vous aviez donc 28 ans, mais ça faisait 10 ans que vous sillonniez les routes de France avec une troupe de copains comédiens et puis votre petite compagnie baptisée La Grande Cuillère. Votre frère aîné dit que réellement, ben vous avez ramé avant de réussir. Il dit vrai ?
Oui, mais c'est pas un ramage.
C'est un apprentissage.
C'est un apprentissage, c'est une aventure. C'est oui, bien sûr, j'ai ramé, mais bizarrement, j'ai pas le souvenir d'avoir beaucoup souffert. Là où j'ai souffert, c'est quand, par exemple, quand on monte... Bon, il y a des histoires drôles qui me sont arrivées. Avec le recul, c'est drôle. Sur le moment, c'était dur. Par exemple, notre première mise en scène... Paul Alliot et moi, on est metteur en scène et dramaturge. On monte un spectacle qui s'appelle La chasse d'Eli Pressman. Soit on monte mal la pièce, soit on choisit mal la pièce. En tout cas, le jour de la première, qui est le seul jour où il y a eu du monde, le seul.
Ça se passe très mal.
Il y a mon frère, un de mes frères, qui est assis dans la salle. Je suis assis pas loin de lui. Il est assis et il dit, mais qui a écrit cette catastrophe? Et le type qui est assis à côté de lui...
C'est l'auteur.
Se retourne et lui dit, c'est moi, monsieur. et ça, c'est drôle sur le moment.
C'est une formidable scène de film.
Deux jours après, alors que je faisais la régie du spectacle, on jouait à 22h. En plus, à 20h, il y avait un spectacle qui faisait un carton, qui était la noce chez les petits bourgeois montée par Jean-Pierre Vincent. C'était une merveille. Et nous, on jouait à 22h.
Et pourquoi vous aviez choisi cette pièce alors?
Je sais pas, ça nous avait plu dans notre délire. Et donc on joue à 22h, deux jours après, à 23h, les quatre spectateurs qui étaient venus nous voir étaient partis.
Et avaient demandé qu'on les rembourse.
Et les acteurs sur scène continuent à jouer, et je suis allé les voir en leur disant « Ils sont tous partis, on peut arrêter ce soir. » Et ça, c'est évidemment que c'est difficile. Mais on avait une telle volonté.
Oui. Vous aviez du feu en vous.
Vous savez, j'ai l'impression que ce métier s'est fait de... En tout cas, pour moi, ça a été fait de trois rêves.
Oui.
Le premier, c'était de le faire. Le deuxième, c'était on le fait, mais sans se préoccuper de savoir s'il y a des gens dans la salle ou pas.
Et le troisième ?
De le partager. Avec le public.
Alors, il y a beaucoup de professionnels qui vous ont dit que jamais vous ne pourriez partager ce rêve avec le public. Par exemple, il paraît que Robert Hossein... Vous avez carrément conseillé d'abandonner, c'est vrai ça ?
Oui, oui.
Qu'est-ce qu'il vous a dit, Robert Hossein ?
Il m'a dit, est-ce que tu es sûr de vouloir faire ça ? Mais bon, je pense que de la part de Robert Hossein, qui est un homme que j'adore, que j'ai retrouvé beaucoup plus tard dans un film de Gérard Oury, que j'avais tourné avec Richard Anconina, il avait accepté de faire un tout petit rôle à la fin, une apparition. C'était trop mignon. Et on s'était retrouvés avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Je pense qu'il m'avait dit ça parce que je faisais peur. Vous savez, personne dans ma famille ne m'a dit « t'as raison de faire ça hein. ».
Mais alors justement, et quand il voyait tous ces désastres, j'imagine qu'il devait être consterné par l'avenir que vous vous prépariez, en fait.
Bien sûr.
Votre famille de Toubib.
Oui, mais je suis inarrêtable. Mais c'est vrai que moi, je me souviendrai toujours du moment où j'ai décidé de faire mon premier spectacle. Seul, j'étais dans le bureau de mon père, à Paris. Il m'a dit « Comment tu vas ?» Je suis tombé en larmes. J'ai dit « Papa, je viens de faire 8 spectacles avec La Grande Cuillère. il y avait un spectacle qui avait à peu près marché, un peu marché. Ouais. On avait eu une critique formidable d'un grand critique qui s'appelait Mathieu Gallet, qui a été vraiment extrêmement bienveillant à mon égard. Et je lui dis, mais papa, à quoi ça sert, ce que je disais tout à l'heure, à quoi ça sert de faire ce métier s'il n'y a personne dans la salle?
Et que vous répond votre père?
Rien. Il a de la peine pour moi. Il me dit, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit, papa, je vais faire encore un spectacle. S'il ne marche pas, j'arrêterai.
Bon, et le triomphe, enfin, arrive, Michel Boujna, avec Albert, le héros du one-man show que vous avez joué au Lucernaire, en louant, paraît-il, ce théâtre pour l'occasion. Albert, il a retourné la situation, le succès est devenu comme une onde de choc dans Paris, tout s'est emballé, et puis le dénominateur commun ensuite de tous les spectacles qui ont triomphé, bah, c'était bien sûr l'évocation des origines, la culture du peuple juif tunisien, le déracinement, l'amour de cette terre et de ses parfums perdus. Mais je voudrais savoir, vous vous sentiez plus comédien, plus humoriste ou plus conteur?
Je sais pas. Je m'en foutais.
Vous étiez sur scène.
Ouais, je jouais. J'avais rencontré Dario Fo, j'avais vu comment lui jouait. Donc je me suis dit, c'est formidable, je vais faire comme lui. Sauf que bon, Dario Fo, c'est Dario Fo et moi, c'est moi. Donc je pense que... Moi, j'avais l'impression... Moi, j'ai toujours l'impression de faire du théâtre. J'ai toujours l'impression de faire du théâtre seul.
D'ailleurs, en Espagne,
il y a deux troupes de théâtre qui ont monté mes textes comme si c'était des pièces, avec plusieurs acteurs.
Donc il faut inventer une autre formule que finalement le one-man show. C'est encore autre chose. Michel Boujna, avant qu'au mois de mars, le Covid ne pulvérise la vie culturelle en France, chaque jour, 150 one-man shows étaient joués rien que dans Paris. 150, il est impressionnant le chiffre. Selon vous, il y a plus d'aspirants humoristes que d'aspirants comédiens?
Pour une raison simple, c'est que aujourd'hui, avec tous les lieux qui existent, en ce moment, tous les mois, enfin, je ne sais pas où on va avec la crise, mais tous les mois, il y a un nouveau comédie club qui sort.
Ouais.
Pour être humoriste aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut? Un jean, un t-shirt, un endroit où il y a 50 personnes et un micro. C'est tout. Il n'y a pas besoin de moyens. À la limite, est-ce qu'ils écrivent ou est-ce qu'ils écrivent, je ne sais pas.
Oui, l'avare que vous jouez en ce moment au Théâtre des Variétés, à Paris, eh ben, il faut des décors, il faut costumes absolument extraordinaires pour une distribution incroyable. Bon, tout ça...
C'est très différent, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien. Ça veut dire que ceux qui veulent faire ce métier, la porte, elle est formidable, puisque aujourd'hui, ça existe. Que ce... Et puis, il y a un autre phénomène qu'il ne faut pas oublier, c'est Internet. Je ne sais plus, Kevin Les Paillettes. La fille qui a fait ça, et attention, ouais, elle est géniale, mais elle n'a pas fait que, je dirais, elle a un métier.
Oui,
elle a appris à être actrice, ça se voit.
Alors, elle s'est servie effectivement des réseaux sociaux, mais
en claquant des doigts.
Si on parle par exemple de la télé, c'est la télé qui a fait du rire une industrie.
Au début, oui. Au début. Ouais, c'est la classe, le petit théâtre de Bouvard. Tout d'un coup, la télévision s'est rendue compte que les clowns ou les humoristes à la télévision, ça faisait de l'audience. Donc, la télé s'est emparée de ça. La télé a une telle puissance de diffusion que ça a rendu populaire ce métier. Moi, quand j'ai commencé, il y avait 3 chaînes de télévision et il n'y avait pas beaucoup, il n'y avait pratiquement rien. Il y avait La Classe. Il n'y avait même pas encore le petit théâtre de Bouvard. Mais moi, je n'y allais pas de toute façon. Mais pas parce que je ne voulais pas. Mais comme je faisais du théâtre, je n'étais pas tout à fait dans ce circuit. Et la télévision, la radio, rire et chanson, à l'époque, ça n'existait pas. Vous vous rendez compte qu'il y a une radio qui s'appelle Rire et Chanson, ça veut dire que...
Intégralement dévolue à ça.
Exactement. Donc il y a une diffusion de l'humour en France aujourd'hui, et c'est très bien comme ça. Il y a des gens formidables qui vont faire ça pendant 2 ans, après ils vont faire du cinéma ou du théâtre. Il y a des gens qui vont faire ça toute leur vie, mais c'est un tremplin formidable.
On a 1000 choses à se dire cet après-midi avec Michel Boujna. Vous êtes sur Europe 1, vous y êtes bien, à tout de suite.
Europe 1.
Michel Boujna est l'avare, prodigieusement l'avare de Molière au Théâtre des Variétés à Paris. Et cet après-midi, il est mon invité. Michel Boujna, avec une tendresse amusée, vous prétendez que les gens du Sud sont tous des acteurs. Alors pourquoi eux plutôt que les gens du Nord?
On va dire que les gens du Nord sont aussi des acteurs. La preuve, Danny Boone l'a prouvé 1000 fois, et pas que lui.
Mais...
En fait, les gens du Nord, ils ont énormément de pudeur. Et ça se voit. Les gens du Sud...
Ils ont de la pudeur, mais ça se voit pas.
Exactement. Marcel Pagnol disait, les gens du Sud parlent tout le temps pour cacher ce qu'ils ont à dire.
Joli. Bon, en tout cas, vous êtes un acteur qui ne joue pas dans les films, qui l'écrit. Pourquoi ?
Jusque-là, ce n'était pas nécessaire. Peut-être je vais jouer dans le prochain. Mais jusque-là, ce n'était pas nécessaire.
Ce sera le quatrième. Vous êtes en pleine écriture.
Oui. Peut-être que je jouerai dedans. Ce n'est pas sûr encore. Hein. Peut-être que je jouerai un père. Et d'abord, maintenant, j'en ai l'âge. Et ensuite, à force d'écrire dessus et de travailler dessus, le camarade avec qui j'écris me dit « Michel, si tu dois jouer ça, c'est toi qui dois jouer ça. Arrête !» Et puis, c'est un film où je vais m'entourer, j'espère, de Pascal Elbé, de Jonathan Cohen.
Magnifique.
On va beaucoup s'amuser.
Oui. C'est une comédie. D'ailleurs, le rôle du père, vous l'aviez donné à Philippe Noiret dans le tout premier film que vous avez réalisé.
À Philippe Noiret. C'est Philippe Noiret qui a bien voulu le jouer.
C'est chic. Et ça, on va en parler tout de suite. Mais d'abord, Michel Boujna, le cinéma, c'est un art collectif. Un assemblage de compétences et d'égo. C'est l'opposé du seul en scène où vous jouez ce que vous avez écrit. Comment vous vivez un tournage quand vous n'êtes pas le réalisateur?
Avec énormément de plaisir, parce que pour moi, c'est comme une colonie de vacances. Vous voyez, même la VAR, même quand je suis sur scène avec une troupe, je suis fou de joie, parce que je ne suis pas tout seul. Ça ne veut pas dire que quand je suis tout seul, je suis triste. Ça veut dire que c'est un bonheur de temps en temps.
Voilà, il faut que la vie ait du relief.
Oui, parce que l'homme n'est pas, ni la femme d'ailleurs, un animal solitaire. Il est grégaire, il a besoin d'un clan, d'une tribu. Un tournage, c'est ça. Alors quand je suis acteur, mais si vous saviez comme je m'amuse. Un jour, il y a un metteur en scène qui m'a dit, parce que j'adore jouer à la belote. Et dès que je peux détourner des techniciens pour jouer à la belote,
ouais,
je le fais. Un jour, il y a un metteur en scène qui est venu me voir et m'a dit, écoute Michel, je vais t'expliquer un truc. Dans ce film, il y a deux équipes. Il y a l'équipe qui joue à la belote avec toi et il y a l'équipe qui fait le film. Et il m'a dit, il y a un détail que tu dois comprendre. C'est la même équipe. Alors,
c'est
arrête
magnifique.
De me voler mon équipe.
C'est magnifique. Ah,
c'était tellement drôle. Mais même quand je suis metteur en scène,
on peut avoir le nom du réalisateur.
Oui, Ariel Zetoun sur le nombril du monde.
Formidable.
Sur Père et Fils, même un jour, le producteur qui était là sur le plateau, il arrive et il voit 40 personnes assis, tous ensemble. Il y en avait deux qui travaillaient sur une voiture. Il fallait équiper une voiture. Donc, il y en avait deux qui étaient sur la voiture. Et tout le reste de l'équipe était autour de moi et je racontais des histoires. Et il m'a dit, mais je paye quoi, moi? Je paye pour que tu les fasses rire.
Alors, on parlait à l'instant de Philippe Noiret, qui était à l'affiche donc du film qui, pour la première fois, a fait de vous un réalisateur et qui avait pour titre Père et Fils, film sorti en 2003. Alors, ce qui est fou, c'est que quand même, un premier film qui offre la dernière apparition sur grand écran à un acteur de légende. Vous n'imaginez pas, quand vous dirigez Philippe Noiret, que, d'une certaine manière, vous filmiez ses adieux au cinéma?
Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Il était déjà malade, mais on ne le savait pas. Parce qu'il avait... Alors lui, en pudeur, c'était champion du monde. Il y a une scène extraordinaire que j'ai pratiquement jamais racontée à personne.
Alors, il faut que vous nous la racontiez à nous.
Oui, maintenant, je peux la raconter. Parce que je l'ai compris après, en plus. On tourne une scène dans le cimetière Mont-Royal à Montréal.
Ouais.
La nuit. La scène, c'est ils accompagnent un type qui cherche le trou dans lequel on va enterrer sa femme. C'est un mec qui vend des farces et attrapes et il veut mettre des boîtes à rire pour faire rire sa femme quand on l'enterre. Donc, il explique que quand le cercueil va être posé, la tombe va rire. Et il est très content. Et Noiret et Pascal Elbé qui jouent son fils l'aident à chercher cet endroit.
Ouais.
Ils se sont rencontrés dans un bar.
Ouais.
C'est la nuit, ils ne voient pas bien. Noiret marche et tombe
dans le trou.
Oui, dans le trou, dans la future tombe de cette femme. D'accord ? Pour répéter, on a pris un cascadeur évidemment.
Ouais.
On filme le cascadeur un peu à contre-jour. Il imite la démarche de Philippe. Il a le manteau de Philippe. La mécanique fait qu'il tombe dans le trou. Et dans le trou, il y a déjà Philippe.
Ouais.
Donc, le cascadeur tombe et c'est Philippe qui se relève, d'accord ? Et qui fait, dans le film, « J'ai trouvé ». D'accord ? On répète. Et Philippe se lève, regarde toute l'équipe. C'est la nuit, hein, c'est très lunaire tout ça. Et il dit à toute l'équipe, pour rigoler, « Je fais des repérages
». Oh !
À ce moment-là, tout le monde rigole. Longtemps après.
Quand vous avez revu le film, vous avez pensé...
Quand je me suis souvenu de,
voilà,
ce moment-là,
de ce moment-là,
j'ai dit, mon Dieu, quelle classe, quelle élégance, quel humour, quelle dérision que cet homme qui est un immense acteur ait besoin à ce moment-là de dire je fais des repérages parce que lui sait qu'il va mourir. Et Noiret, c'est pas que ça, voilà, évidemment, c'est un homme magnifique.
Voilà, là... l'esprit et l'émotion mariés. Alors, moi, je vais parler d'un petit peu de fantaisie, mais carrément surréaliste. Le succès de ce film intitulé Père et Fils, avec Philippe Noiret, il est quand même à l'origine d'un défi irréel que vous avez dû relever, Michel Boujna. Vous aviez parié avec l'équipe de tournage que si le film dépassait le million d'entrées, eh bien, vous auriez le culot de courir totalement nu un samedi soir sur la place de la Concorde. Le film a dépassé le million d'entrées. Je voudrais savoir qui vous a téléphoné le premier pour vous rappeler votre pari.
Bruno Puzzoulou. et puis André Labouze, qui est le directeur technique de la Gaumont. Évidemment, ils ne se sont pas privés de m'appeler en disant « Dis-moi, tu dois... » Parce qu'en en fait, dans Père et Fils, il y a une scène où Charles Berling et Bruno Puzzoulou courent tout nus.
Ouais. Bon.
Donc c'était déjà un truc qui était dans l'air.
Donc ils t'ont dit, allez, on a dépassé le million, c'est ton tour.
Ouais, j'ai été un peu malin, parce que je l'ai quand même fait à 2h du matin.
Et c'est ce que j'allais vous demander, quand il n'y a pratiquement plus personne sur la place de la Concorde.
Et qu'il pleuvait.
Mais il pleuvait.
Mais
bon,
on
n'était
pas loin, vous savez, la
vous
place de la
Concorde. Vous avez été filmé ?
Oui, bien sûr.
C'est homologué comme record.
Ouais, c'est dans le bonus du film, mais il est caché, il faut le chercher.
En quelques mots, juste avant de faire une petite pause, Michel Boujna, plus sérieusement, vous écrivez des one-man shows, vous écrivez des films, mais vous confiez que jamais vous ne pourrez écrire un roman. La littérature est pour certains l'art ultime, mais pour vous, bah, l'écriture, ça n'est pas une finalité.
Non, mais c'est pas ça. C'est que d'abord, j'adore la littérature. Sans les livres, ma vie aurait été différente, j'en suis sûr. Les livres m'ont sauvé. Mais c'est parce que je sais pas le faire. Je rêve d'écrire un roman. J'ai plein d'histoires à raconter qui seraient des romans.
Mais vous dites que vous écrivez avec la bouche, pas avec la main.
Exactement. Et je suis un conteur, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je le regrette. Peut-être que quand je pourrai plus jouer parce que j'aurai trop mal aux genoux et aux hanches et tout ça, et que je serai chez moi tranquille avec un chien à marcher dans le jardin, peut-être qu'à ce moment-là, frustré de ne plus pouvoir raconter en vrai, je me mettrai à raconter en faux, ça veut dire avec un papier et un crayon. Ce qui est faux, évidemment.
On retrouve tout de suite Michel Boujna. Michel Boujna, vous avez deux enfants, Louise et Joseph. Est-ce que la meilleure façon d'être un bon père, c'est d'être une mère juive?
On dit souvent, on demande qu'est-ce que c'est qu'un père juif, et on répond c'est une mère normale. Moi je sais que je suis très papa poule, mais c'est pas l'apanage des juifs. Hein. Je veux dire, j'ai des amis qui sont pas juifs et qui sont des papa poules comme moi.
Non, c'est l'apanage de ceux qui aiment, tout simplement.
Oui, absolument. Les juifs n'ont pas le monopole de l'amour ou de l'inquiétude ou de la névrose qui consiste à surprotéger ses enfants.
Mais je vous pose la question parce que, de votre propre aveu, hein, quand vous aimez, vous voulez tellement protéger, contrôler, tout résoudre pour la personne que vous aimez, que ça devient un enfer, alors que, en fait, vous vous posez en ange gardien. En fait, vous êtes la patronne des mères juives.
Je suis un emmerdeur, oui. Ouais. Parce que, par exemple, quand j'ai mon fils au téléphone, je fais « Allô ?» Il me fait « Papa, ça va ?» Et on peut commencer à parler d'autre chose. Et là, il y a tout à l'heure, ma fille m'a appelé.
Elle avait besoin
d'un truc et j'arrête tout. En fait, le seul moment où je peux pas m'arrêter, c'est quand je suis sur scène et que je joue. Voilà, au milieu de la VAR, je peux pas dire, attendez, au public, attendez une seconde, il y a ma fille qui m'appelle, elle a besoin d'un truc, je reviens tout de suite. Ça, je ne peux pas. Mais sinon, oui, c'est une priorité. Les gens que j'aime, c'est tellement merveilleux d'aimer. C'est tellement merveilleux d'aimer.
Michel Boujna, votre port d'attache, eh ben c'est pas Paris, c'est Saint-Paul-de-Vence. C'est peut-être Saint-Paul-de-Vence parce que vous retrouvez là-bas la lumière de la Tunisie.
Oui. Alors, ça ressemble plus à la Toscane qu'à la Tunisie.
Ouais.
Mais c'est ma Méditerranée.
Ouais.
Je suis pas loin de la mer. Le projet au départ, c'était de racheter ma maison au bord de la mer en Tunisie. Mais quand je suis allé là-bas avec une valise avec de l'argent dedans pour la racheter tout de suite, eh ben, ils l'avaient détruite. Donc, je suis rentré en France avec ma valise. Et j'ai cherché un endroit où je pouvais m'installer. Je suis tombé amoureux de Saint-Paul-de-Vence. Et j'y suis
alors,
très heureux.
Voilà, la Méditerranée est toute proche. Et vous dites d'ailleurs qu'en mer, eh ben vous êtes autant à Tunis qu'en France.
Oui. Bah oui.
Bien sûr.
Bien sûr. C'est pour ça que j'ai. Hélas, je suis pas multimilliardaire, donc j'ai pas les moyens d'avoir un bateau extraordinaire. Mais ça fait 30 ans que j'ai des bateaux. Je me débrouille comme je peux, de briques et de brocs. Danny Boone dit que mon dernier bateau, c'était le seul bateau au monde qui allait moins vite que les vagues.
Que c'est joli. Alors Michel Boujna, au-delà de votre passion pour la scène et ceux qui en font, bah j'imagine que c'est pour tous les sortilèges du Sud que vous avez accepté, après la disparition de Jean-Claude Brialy, de reprendre la direction du Festival de Ramatuel.
Oui, alors il y avait trois raisons. D'abord, la première, c'est que quand j'ai joué pour la première fois à Ramatuel en 86-87, invité par Jacqueline Franjou, la présidente, et Jean-Claude, je suis sorti de scène en disant « je reviens quand ?» Et Brialy m'a dit « mais Michel, tu viens de jouer ?» J'ai dit « ouais, mais je reviens quand ?» Tellement c'était merveilleux. La deuxième raison, c'est que évidemment, ce festival est une espèce de village, comment dire, comme dans Astérix. C'est un îlot de liberté artistique où on mélange tous les genres, où tout le monde peut jouer. Et la troisième raison, évidemment, c'est ma Méditerranée. C'est juste à côté, c'est au bord de la Méditerranée.
Et puis, pour ceux qui ne sont pas encore allés à Ramatuel, il faut dire que voilà, ce festival, il est sous les étoiles, puisqu'à ciel ouvert, dans un écrin de verdure, un théâtre en cercle, à l'antique, qui domine la baie de Pamplonne, ça fait rêver. Et puis c'est le village où repose celui qui fut un Rodrigue inoubliable dans le site de Corneille. C'est le village où repose Gérard Philippe.
Oui, oui, oui. Moi, ma mère.
Donc, c'est un lieu habité.
Oui, ma mère a pleuré quand Gérard Philippe est mort. Il y avait une photo dans Match très célèbre où il était habillé dans le costume du Cid. J'ai gardé ça en mémoire. Gérard Philippe reste une image comme ça de mon enfance, très, très, très forte.
Le festival de Ramatuel, il a bien eu lieu cet été, hein, Michel Boujna.
Oui.
Et vous dites que le fait de le faire vivre cet été, c'était pour vous comme un acte militant, un acte de résistance.
Ben oui! Il faut qu'on continue à vivre. Il faut qu'on trouve les solutions pour vivre, pour pleurer, pour rire, pour jouer. On ne peut pas continuer à subir. Alors, on doit faire attention. Tout le monde porte un masque. Il y a la distanciation. Mais il faut qu'on vive. Sinon, on va devenir fou. On ne peut pas vivre dans un pays où il n'y a pas de culture. C'est impossible.
Depuis 13 ans que vous programmez ce festival, quels sont les spectacles qui sont allés au-delà de ce que vous pensiez connaître de meilleur dans ce métier?
Je ne peux pas oublier Juliette Gréco, qui vient de s'absenter. Je ne peux pas oublier des courts moments que j'ai eus avec Guy Bedos un jour. Je ne peux pas oublier Michel Bouquet, évidemment. Je ne peux pas oublier Mathieu Chédid, qui... Je rencontre Mathieu Chédid en mer. Je rêve qu'il
vienne. Chacun sur un bateau.
Oui.
Ouais.
Il vient sur mon vieux bateau. On parle, je lui dis « Mais pourquoi vous ne viendriez pas, Mathieu ?» Il me fait « Mais oui, je viens. » Alors que lui fait des grandes salles.
Ouais.
Il est venu, c'était un moment, mais incroyable. Michael Gregorio. Et puis la découverte de gens qui n'étaient pas connus vraiment, comme Alex Lutz ou de gens comme ça, parce que
et
j'ai organisé...
Et qui sont ensuite devenus des stars.
Oui, et qui sont restés évidemment très fidèles au festival. Il y a plein de moments, plein. Un jour, il y a eu une tempête, juste avant que le spectacle commence.
Oui.
Le décor s'est détruit.
Oui.
Le public était là, il regardait les techniciens comme des marins, en pleine tempête, en train d'assurer, de tirer des bouts dans tous les sens. Le décor détruit. On a joué avec un décor qui était en ruine. C'était magnifique. Donc, il y a plein de moments. Plein. C'est pour ça qu'il faut que ce festival... Moi, j'ai comme d'habitude, à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose d'important, je dis non au départ. Moi, quand Jacqueline Franjou m'appelle après la mort de Jean-Claude, j'aime pas dire la mort. Après que Jean-Claude se soit absenté, elle me dit « On est tous d'accord, il faut que ce soit toi qui dirige. » J'ai dit « Non !» Alors tout le monde m'a engueulé. J'ai dit « Bon, d'accord, je fais ça pendant un an pour t'aider et puis après, tu trouves quelqu'un d'autre. »
Et ça fait 13 ans.
Oui.
Formidable.
Je suis fou.
Il est fou, c'est pour ça qu'on l'aime. On retrouve tout de suite Michel Boujna.
Europe 1.
Michel Boujna, 40 ans se sont écoulés depuis votre premier triomphe sur la scène du Lucernaire à Paris. 40 ans passés à fouler toutes les scènes de France, en semant les rires et l'émotion. 40 ans d'écriture de spectacles, le dernier étant votre autobiographie imaginaire, Ma vie encore plus rêvée. Donc, 40 ans de fidélité de la part du public. mais 40 ans sans que jamais vos pères ne vous nomment aux Molières. Est-ce que c'est un chagrin ?
Bah oui, je peux pas mentir. Oui. Voilà ma réponse.
C'est un chagrin. Bon, ce spectacle, Ma vie encore plus rêvée, il est en constante évolution et j'ai presque envie de dire à la manière de Proust, voilà, dont on dit qu'il n'a écrit qu'un seul livre, mais en plusieurs volumes, avec À la recherche du temps perdu, eh bien vous aurez écrit un seul et unique spectacle depuis 40 ans, mais constitué de tous ceux que vous avez imaginés, et c'est pas fini. C'est pas fini parce qu'en février prochain, vous allez me dire si c'est vrai, Ma vie encore plus rêvée aura une suite.
Oui, ça va s'appeler « Dans tous les sens ». Je vais dans tous les sens. Je parle dans tous les sens. Je fais des choses que je n'ai jamais faites avant et je vais beaucoup m'amuser, j'espère.
Quelles sont ces choses que vous n'avez jamais faites
avant ? Par exemple, je vais rentrer en scène et je vais chanter. Et je chante très très mal. Et je compte bien chanter très très mal. Et d'ailleurs, à chaque fois que je vais m'énerver pendant le spectacle, je vais regarder le public en disant
« Attention, je chante !»
« Attention, je chante !» C'est un peu assurance tourique chez Astérix.
Alors, vous serez donc une sorte de conteur philosophique avec ce prochain spectacle, baptisé Dans tous les sens et qui démarrera en février. Mais en attendant, Michel Bougenat, vous êtes Harpagon dans La Vare de Molière, mise en scène par Daniel Benoît, au Théâtre des Variétés à Paris. Bon, La Vare est l'histoire d'une passion folle qui finalement va troubler l'ordre social, une passion liée à l'angoisse, en fait, puisque c'est celle de l'argent, une passion lié à la terreur de perdre, en fait.
Oui, il est désespéré. Il est vieux. Il aime, il est amoureux d'une femme. Il voudrait encore vivre et ne pas mourir, encore désirer, encore avoir de la tendresse, encore faire l'amour. C'est très important. Je dirais la dimension charnelle de son désir, c'est très important. Elle est très belle. Elle n'a pas 14 ans. Hein. Et puis, elle a été en esclavage pendant 10 ans chez les barbaresques. Donc, elle n'a pas fait que la vaisselle. Hein. Elle a souffert. Elle a terriblement souffert. Elle a besoin de s'en sortir. Elle n'a pas d'argent. Elle est seule avec sa mère. On lui propose ce vieux qui a de l'argent.
Pourquoi ?
Qui va mourir dans pas longtemps. Ouais. D'ailleurs, la marieuse lui dit s'il n'est pas mort dans 3 mois, il ne respecte pas le contrat. Rien que son parfum, ça le rend dingue. Donc, c'est très intéressant
donc
à jouer.
Donc, résister à la fin de l'histoire qui approche inexorablement.
Oui, mais combien il y a d'hommes qui font ça aujourd'hui ? Combien il y a d'hommes qui refusent l'idée de la vieillesse et qui ne désirent que l'image de la femme qu'ils avaient rencontrée quand ils avaient 20 ans ? Combien de femmes aujourd'hui désespérées ? Vous savez que les femmes qui sont SDF aujourd'hui, c'est souvent des femmes qui étaient des femmes battues qui ont fui. Mais elles n'avaient aucun moyen de subsistance. Elles se sont retrouvées dans la rue. Combien y a de femmes aujourd'hui qui souffrent parce qu'elles sont dépendantes matériellement d'un homme ? C'est pour ça qu'il faut que les femmes soient payées la même chose que les hommes. C'est pour ça qu'elles ont raison de se battre. C'est pour ça qu'il faut les soutenir au maximum. Même si je suis contre le féminisme, comme je l'appelle, qui est délirant. Parce qu'on reste des hommes, vous restez des femmes. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'est pas... Il faut qu'on se... J'allais dire qu'on se respecte. J'en ai marre. Il faut qu'on s'aime. Juste qu'on s'aime. Et si on s'aime, on va se respecter. C'est anormal de savoir que les femmes ne sont pas payées comme les hommes. C'est anormal. C'est délirant. C'est fou d'imaginer qu'on vit dans un pays où il y a autant de femmes qui meurent des coups des hommes.
Alors, cette jeune femme rêve d'une protection, en fait. Et lui se désespère de voir arriver la fin de l'histoire et se désespère de tout perdre, puisque l'argent, finalement, c'est pour lui la seule valeur éternelle. Juliette Gréco, qui vient, je ne vais pas dire de nous quitter, mais je vais emprunter votre belle formule, qui vient de s'absenter. Juliette Gréco disait, pour résister au poids implacable de la réalité et pour résister à la fin de toutes les histoires, à la fin de toutes nos histoires, ben voilà, faut s'appliquer à aimer ce qu'on fait de façon démesurée.
Elle a raison,
Juliette.
Elle a mille fois raison. Elle n'avait pas sa langue dans sa poche. Hein. Quand elle aimait, elle aimait. Quand elle n'aimait pas, elle n'aimait pas.
Bon, comme vous.
Oui. Sauf que moi, je trouve qu'elle avait plus de courage que moi. Moi, j'ai du mal.
En quoi n'avez-vous pas de courage, Michel Bougenat ?
Bah, ça me fait de la peine de dire à des gens que je trouve qu'ils ne font pas bien leur métier. J'ai du mal à dire à un acteur, excuse-moi, mais va travailler. J'ai du mal. Quand je travaille avec eux, j'ai aucun problème à le dire. Quand je suis metteur en scène, j'ai aucun problème à le dire parce que je défends le film. Mais quand je vais voir des spectacles ou quand j'ai du mal, c'est un tort parce que c'est faire du bien que dire la vérité, avec tendresse, mais c'est faire du bien.
Michel Boujna, vous rêviez de jouer Molière ? Eh bien, c'est chose faite. Vous êtes Harpagon dans l'une des comédies les plus fameuses de Molière, L'Avare, mise en scène par Daniel Benoît au Théâtre des Variétés à Paris. Merci, vraiment merci pour cet échange à cœur ouvert. Je vous dis à très, très vite.
À très vite.
Je vous embrasse.
Moi aussi.